RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. En Afrique comme ailleurs dans le monde, l'escalade du conflit au Moyen-Orient suscite l'inquiétude. Illustration sur le campus de l'université Cheikh Diop de Dakar au Sénégal. La visite du général Assimi Goïta en Russie, ce déplacement du chef de la junte au pouvoir à Bamako, intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali, attaques qui se multiplient d'ailleurs dans la région avec celle qui a lourdement endeuillé le Niger dans la nuit de samedi à dimanche, bilan plusieurs dizaines de morts et une vingtaine de blessés. À retenir aussi, notre dossier est consacré aujourd'hui à la hausse de la cybercriminalité en Afrique. On en parle à la faveur de la publication d'un rapport d'Interpol sur le sujet. Et d'abord, Donald Trump, le président américain, qui annonce ce soir sur son réseau social que l'Iran et Israël ont accepté un cessez-le-feu total prévu pour commencer autour de 4h GMT ce mardi et qui doit déboucher sur la fin officielle de la guerre. Ce lundi, l'Iran a riposté aux frappes américaines en tirant des missiles vers le Qatar. En tout cas au Sénégal, comme partout dans le monde, les frappes américaines en Iran et l'escalade du conflit au Moyen-Orient sont suivies de près et suscitent l'inquiétude. Notre correspondante, Léa Lisa Vesterhoff, a pu le constater sur le campus de l'université Cheikh Diop à Dakar.
Dans le hall de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UQAD, les étudiants papotent avant de rejoindre leur cours. Les frappes américaines en Iran sont dans tous les esprits.
On est tous choqués.
Cher Tidiane Thiam, en troisième année de droit public.
On est tous choqués le fait qu'il a bombardé, parce que les États-Unis est une grande puissance qu'il pouvait faire à l'amiable quand même.
Parmi les étudiants, la condamnation est unanime. Habibou a 28 ans.
Vraiment, ce sont des frappes qui violent les règles de droit international. Donc on n'a qu'à vraiment appeler à cesser le feu.
Un cessez-le-feu qui paraît bien illusoire à Alumba, lui aussi est étudiant en droit public.
L'Iran a le plein droit de riposter par rapport aux attaques américaines. Il peut évoquer la légitime défense. On risque quand même une troisième guerre mondiale. Ça peut faire flipper à tout le monde. On sait jamais.
Un peu plus loin, dans les jardins de la faculté, assise sur un muret, Anna Silva révise ses cours de sciences politiques. Ce qu'elle craint, elle...
Ce sont les conséquences. Parce qu'après ça, là, d'autres pays peuvent s'en mêler. Les pays en voie de développement se retrouvent un peu coincés sur ce genre d'histoire-là. Parce que, faut le dire, nous n'avons pas la capacité ou bien le pouvoir de participer à ces guerres. Mais frère, les répercussions, ce sont nous qui vont plus ressentir ça. Sur le côté économique, social aussi. C'est ce qui me fait le plus peur actuellement.
Lundi dernier, les autorités sénégalaises avaient condamné les violations du droit international et appelé à la désescalade. Rien depuis. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Dans l'actualité également, ce déplacement qui intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali. Arrivé dimanche à Moscou, le chef de la junte au pouvoir à Bamako a rencontré ce lundi au Kremlin le président Vladimir Poutine. Cette rencontre s'est notamment soldée par la signature de documents visant à resserrer les liens économiques entre Moscou et Bamako et la coopération dans le domaine du nucléaire civil, selon le Kremlin. Avec l'arrivée de l'Africa Corps qui succède à Wagner, c'est donc une officialisation des liens militaires entre les deux pays. RFI à Moscou, Anissa El-Jabri.
À son arrivée sur le sol russe, le général Assimi Goïta déclarait « Je suis convaincu que cette visite sera l'occasion de renforcer nos relations », citant la défense, les transports et l'économie comme secteur prometteur de coopération dans cet ordre. Et de fait, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a rencontré en parallèle son homologue malien, le général Sadio Camara, une rencontre qui a donné lieu, et c'est rare, à une communication plus importante qu'habituellement en Russie. Sur la chaîne Telegram du ministère de la Défense, on a ainsi pu voir Andrei Belousov en uniforme déclarer en face de son homologue malien « La priorité de notre partenariat est d'obtenir des résultats concrets en matière de renforcement de la sécurité et de la souveraineté. Cette approche-là est la clé de tout succès et de toute victoire. » Fin de citation. Le ministère de la Défense russe assume donc désormais officiellement et pleinement son rôle au Mali. D'autres annonces sont sans doute à venir. La Russie et le Mali ayant déjà annoncé lancer une coopération dans le domaine du nucléaire civil. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Revenons à présent sur l'attaque de Manda au Niger. Elle s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche dans ce village du département de Téra dans la région de Tillabéri dans le sud-ouest du pays. De sources locales, le bilan s'élève désormais à 71 morts et une vingtaine de blessés, tous civils. Une attaque dont le mode opératoire rappelle celle de Fombita, c'était en mars dernier. Le récit de Magali Lagrange.
Les fidèles sont réunis devant la mosquée de Manda pour écouter des prêches samedi soir quand des hommes armés font irruption dans le village à la nuit tombée. De sources locales, les victimes se comptent par dizaines. Les blessés, plus d'une vingtaine, sont actuellement soignés dans plusieurs centres de santé de la zone, l'un d'eux évacué vers Niamey pour être pris en charge. Le village de Manda est situé dans le département de Téra, zone des trois frontières dans laquelle le groupe État islamique au Sahel est actif. Il est rattaché à la commune de Gorwol. Un appel du conseil communal de la jeunesse de cette localité circule, demandant des contributions de toute nature pour venir en aide aux rescapés et aux blessés de cette attaque. C'est la deuxième fois cette année qu'un rassemblement de fidèles est visé dans cette région du Niger. Le mode opératoire de l'attaque de Manda rappelle celle de Fambita. Courant mars, la mosquée de cette localité du Tillabéri avait été encerclée par des hommes armés au moment de la grande prière. 44 civils avaient été tués selon le bilan officiel. 3 jours de deuil national avaient alors été décrétés.
Récit signé Magali Lagrange. Et puis au Bénin, le nom du candidat soutenu par le pouvoir pour l'élection présidentielle d'avril 2026 sera connu le 12 octobre. C'est ce que rapporte ce lundi le porte-parole du gouvernement. Le président Patrice Talon a plusieurs fois affirmé qu'il ne souhaitait pas être candidat à un troisième mandat lors de l'élection prévue le 12 avril 2026. Jusqu'à présent, en tout cas, aucun nom n'a officiellement été avancé. Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, arrivera en 2026 au terme de son second mandat, le maximum autorisé par la Constitution. La question de sa succession a été relancée en septembre 2024 lorsqu'un de ses amis intimes, Olivier Bocco, a été arrêté pour tentative de coup d'État avec l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki. En Centrafrique, le départ précipité du président Faustin Archange Touadéra alimente depuis quelques jours des rumeurs inquiétantes. Officiellement, le chef de l'État s'est rendu en Belgique pour raisons médicales. Ce lundi, dans un communiqué, le gouvernement se veut rassurant. Les autorités assurent effectivement que ce déplacement était prévu. Le président a profité donc de son séjour à Bruxelles pour un contrôle médical. Les précisions de François Mazet.
Depuis samedi soir, des informations alarmistes circulaient sur l'état de santé de Faustin Archange Touadéra. Attendu ce lundi au sommet d'affaires États-Unis-Afrique en Angola, le président centrafricain aurait quitté Bangui samedi matin en urgence. Hier, le site spécialisé Africa Intelligence a fait état d'une évacuation via un jet privé médicalisé vers un hôpital de Bruxelles où sa situation se serait stabilisée. Le sujet a pris tant d'importance que le gouvernement a été contraint de communiquer. Son porte-parole Maxime Balalou l'affirme, le président Touadéra participera mercredi au sommet du Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Il a juste anticipé son départ pour effectuer des examens.
Je tiens tout de suite à vous rassurer. Le président de la République est parti pour faire plaidoyer pour que l'Union européenne soutienne le Gavi. Il est parti un peu tôt parce que c'est aussi un humain. Il est parti faire ce qu'on appelle un check-up, c'est-à-dire quelques examens de routine, ce qui est normal pour tout être humain. À un moment donné, il faut toujours prendre soin de son corps. Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'état de santé du président de la République, disant qu'il est gravement malade, ce qui est faux. Je l'ai eu au téléphone et je vous rassure que... Il n'y a pas de souci.
Cette communication ne convainc pas tout le monde. Certains y voient la preuve du délabrement du système de santé centrafricain. L'opposant Martin Ziegele estime que la santé du chef de l'État est une question d'intérêt national. Il appelle à la transparence sur le sujet.
Une précision signée François Mazet. Au Kenya, 3 policiers poursuivis pour meurtre après la mort en détention d'un jeune enseignant, Albert Ojwang, 31 ans, avait été arrêté pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages accusant de corruption le chef adjoint de la police nationale. Son décès en cellule avait initialement été présenté comme un suicide par la police, une version démentie depuis par plusieurs légistes. Bonsoir Aurélie Diallo.
Bonsoir.
La police a depuis annoncé effectivement l'inculpation de 3 policiers.
Et parmi ces 3 policiers, on retrouve le commandant du poste où était détenu Albert Ojwang. Un technicien a aussi été arrêté, soupçonné d'avoir effacé les vidéos de surveillance du commissariat. Pourtant, un nom reste absent de ce communiqué. Celui d'Eliud Lagat, le numéro 2 de la police kényane, mis en cause par la victime dans ses publications et à l'origine de son arrestation. Quelques jours après les faits, il avait annoncé se mettre en retrait de son poste alors que débutait l'enquête. Une mise en retrait qui ne suffit pas pour la Commission kényane des droits humains. Selon elle, Eliud Lagat est un suspect principal dans ce meurtre et devrait quitter définitivement son poste, être arrêté et poursuivi. L'affaire a déclenché une série de manifestations à travers le pays et de nombreux appels à la démission d'Eliud Lagat. L'émotion a été vive après les les révélations de l'autopsie qui a contredit la thèse du suicide avancée par le commissariat. Interrogé par les sénateurs kényans, Douglas Kanja, le chef de la police kényane, a admis que c'était un mensonge avant de présenter ses excuses.
Merci, Oueli Diallo.
Afrique Soir sur RFI.
RFI, 22h40 en temps universel, et on ouvre notre dossier consacré aujourd'hui à la hausse de la cybercriminalité en Afrique. C'est en tout cas ce que pointe Interpol dans son rapport d'évaluation des cybermenaces pour 2025. Les arnaques en ligne, les rançongiciels et la compromission de courriers professionnels sont parmi les cybercrimes les plus répandus, et les pays manquent d'infrastructures informatiques essentielles pour parvenir à lutter efficacement contre ce fléau. Explication, Pierre Firsian.
La cybercriminalité représente plus de 30% de l'ensemble des crimes signalés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle apparaît en très forte augmentation dans certains pays, exemple en Zambie, où les arnaques en ligne ont explosé de 3000% entre 2023 et 2024. Parmi les escroqueries les plus utilisées, le phishing ou l'hameçonnage arrivent en tête. Cette arnaque qui consiste à obtenir les données personnelles d'un internaute en se faisant passer pour un organisme reconnu représente 34% de tous les incidents cyber détectés à travers l'Afrique. Autre fléau en augmentation, les rançongiciels, ces logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les cryptant. Près de 18 000 attaques de ce type ont été détectées l'an passé en Égypte et plus de 12 000 en Afrique du Sud. Interpol note également que la compromission de courriels professionnels a fortement augmenté, tout comme les cas de sextorsion numérique, du chantage en ligne via des images sexuellement explicites. Ces images peuvent être authentiques ou générées par intelligence artificielle, précise le rapport. Voilà pourquoi Neil Jetton, le directeur de la cybercriminalité d'Interpol, alerte : la fraude par intelligence artificielle exige, estime-t-il, une attention urgente.
L'hameçonnage est donc l'une des arnaques les plus en vue. C'est entre autres ce que nous explique Simon Hirle, officier spécialisé au sein de l'unité cybercriminalité d'Interpol. Il a été joint au téléphone par Pierre Firsian.
Le phishing, c'est vraiment la porte d'entrée de la plupart des arnaques. Les cybercriminels envoient des messages qui ressemblent à ceux d'une banque ou d'un service de livraison, et incite les victimes à cliquer sur un lien ou à fournir leurs informations personnelles. C'est simple, mais redoutablement efficace et très répandu.
Quelles sont les zones et les pays les plus touchés?
Les régions les plus touchées sont clairement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Certaines de nos données indiquent même que l'Éthiopie aurait été le pays le plus ciblé au monde en matière de détection des logiciels malveillants l'année dernière. C'est un signal fort, surtout pour un pays qui se numérise à grande vitesse. En Afrique de l'Ouest, des pays comme le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des foyers pour les fraudes BEC, Business Email Compromise, et les arnaques sentimentales. En Afrique du Nord, l'Égypte, à elle seule, a représenté 13% de toutes les cyberattaques du continent l'an dernier.
Comment les États peuvent-ils parvenir à combattre efficacement cette cybercriminalité? Les États ont-ils pris conscience de l'ampleur du problème, selon vous?
Il y a des progrès, mais beaucoup de travail reste à faire. Plusieurs pays ont mis en place des unités spécialisées en cybercriminalité et ont lancé des formations pour les enquêteurs en particulier. C'est encourageant, mais plus de 90% des pays déclarent manquer de ressources et d'outils pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. 65% des pays africains n'ont pas actualisé leur législation en matière de cybercriminalité au cours des 12 derniers mois. Beaucoup n'ont pas encore de cadre juridique solide pour collecter les preuves numériques ou pour collaborer avec les grandes entreprises technologiques. Donc, il faut mettre à jour les lois, investir dans les compétences et les équipements, et surtout renforcer des partenariats transfrontaliers. C'est la seule manière d'avoir une vraie longueur d'avance.
Simon Hirle, l'officier spécialisé au sein de l'unité cybercriminalité d'Interpol, pour ce dossier consacré à la hausse de la cybercriminalité en Afrique. Dossier signé Pierre Firsian. Quelques mois de la COP 30, la mairie de Paris, la capitale française, a rassemblé ce lundi des maires du monde entier. Les municipalités font partie des acteurs en première ligne face aux conséquences du réchauffement de la planète. En 2050, plus de 70% de la population mondiale sera urbaine. Sur le continent africain, Amélie Tullet, les maires demandent donc plus de moyens pour adapter leur ville et protéger leurs concitoyens, et notamment plus de financement direct.
Inondations, pluies diluviennes ou pics de chaleur, au Bénin comme dans de nombreux autres pays, les grandes villes en pleine expansion et leurs habitants les plus modestes souffrent des conséquences concrètes du changement climatique. Le maire de Cotonou, Luc Setondji Atroukpo, est aussi le président de l'Association nationale des communes du Bénin.
Les métropoles sont frappées de plein fouet. Nous avons besoin, par exemple, de verdir nos villes. Il faut que nos villes soient plus vertes. Et pour tout cela, on a besoin de ressources. Il faut que les partenaires comprennent que le financement tirer des villes est une solution pour que nous puissions apporter notre pied à l'édifice en ce qui concerne le changement climatique. Et ça manque. Ouais, le fonds vert a été mis en place pendant longtemps. Les villes n'avaient pas du tout accès au fonds vert. Mais il n'y a pas de solution sans moyens.
Des financements et aussi la latitude pour agir. Pour Roger Mbassadine, maire de Douala, capitale économique du Cameroun, les maires doivent être plus consultés.
Il y a des questions de gouvernance urbaine. Le foncier relève uniquement de l'État. Et là, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ont un titre foncier sur une parcelle de terrain que la ville, dans sa classification, a jugé inconstructible. Comment faites-vous dans ce cas-là? Lorsqu'on veut donner un titre foncier, que les maires soient interrogés, parce que celui qui gère le plan d'occupation du sol, c'est le maire.
Malgré des avancées et une prise de conscience générale, les maires expriment une frustration face aux promesses non tenues 10 ans après la COP 21 de Paris en 2015.
Un sujet signé Amélie Tullet. On s'intéresse maintenant à la situation des réfugiés climatiques de bord, justement en capitale de l'état de Jonglei au Soudan du Sud. Depuis 2020, plus d'un demi-million d'habitants de la région ont été affectés par les inondations provoquées par la crue du Nil et les pluies torrentielles. Ce cycle d'inondations est toujours en cours, c'est pas moins de 130 000 habitants des zones inondées à trouver refuge dans des camps de déplacés autour de bord. Voilà maintenant plus de 4 ans qu'ils sont là à attendre un retour hypothétique chez eux. Reportage de notre envoyé spécial Florence Mietto.
Au camp de Malouas-la-Gorbar, près de Bor, chaque Toukoul, les maisons traditionnelles, est entourée de potagers d'où affleurent des pieds de sorgho en ce début de saison des pluies. Ding Kwot Deng, 29 ans, désherbe son champ à l'aide d'un outil traditionnel. Mère de 5 enfants, la crue du Nil l'a chassée de son village de Djalé en 2021.
C'était terrible. Nous avons dû mettre ce que nous avons pu dans un canoë et fuir jusqu'à bord. Mais nous avons dû abandonner nos chèvres et beaucoup d'autres choses. Et nous sommes arrivés ici avec pratiquement rien. Cette petite ferme de sorgho, c'est ce qui nous aide à survivre. Et pendant la saison sèche, nous cultivons plus près du Nil.
Sa voisine, Akwol Manyang Adjak, 21 ans, aimerait elle aussi retourner à Baïdit, le village de son mari. Mais c'est pour l'instant inenvisageable.
Moi, je vis et je cultive ici, dans le camp. Et mon mari va pêcher dans les marécages. Mais nous attendons la fin des inondations pour pouvoir retourner au village. Pour l'instant, c'est impossible car notre maison a été détruite. Et il y a encore de l'eau. Et puis il y a aussi beaucoup d'insécurité. Seul Dieu sait quand nous pourrons rentrer.
Les chefs locaux expliquent qu'ils espèrent que les travaux sur la digue au nord de Bor permettront d'assécher les villages inondés. Et avouent que la situation des déplacés de Malouas-la-Gorbar est encore plus difficile depuis l'arrêt des distributions alimentaires il y a 2 ans. Florence Mietto, de retour de Bor, RFI.
Le procès d'un marchand d'art africain camerounais et 6 autres prévenus s'est ouvert aujourd'hui, lundi, à Bobigny, dans la banlieue parisienne. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir trompé des particuliers en France pour qu'ils acquièrent à prix d'or des objets faussement anciens et sans grande valeur. Pour l'ensemble des 5 victimes, le préjudice total est évalué à plus de 700 000 euros. RFI, 22h49 en temps universel, le rappel des autres titres de l'actualité.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Et on commence par la riposte de l'Iran aux frappes américaines sur des sites nucléaires ce week-end. Téhéran a ciblé effectivement une base militaire américaine au Qatar ce lundi. Doha dit avoir intercepté avec succès des missiles et se réserve le droit de répondre à cette attaque. Le président américain appelle l'Iran et Israël à avancer vers la paix. Et puis le président russe Vladimir Poutine a lui condamné ses frappes contre l'Iran, proche allié du Kremlin, en recevant le chef de la diplomatie iranienne à Moscou, sans toutefois fois offrir publiquement d'aide militaire à Téhéran à ce stade. Et place au dossier éco. Il est aujourd'hui consacré aux conséquences économiques de la réforme des Nations Unies. Coupes budgétaires, réduction des effectifs et relocalisation sont au menu de cette réforme lancée il y a 3 mois par le secrétaire général de l'institution. L'organisation a dû donc réduire de manière drastique son plan d'aide humanitaire mondiale pour l'année 2025. Et les effets de cette initiative se font déjà sentir, Charlotte Cosset.
Cette humanitaire préfère rester anonyme. Elle travaille dans une mission de l'ONU. Elle a été prévenue le 1er juin que son contrat serait résilié dès la fin du mois.
Je pense que personne ne s'attendait à ce que les choses prennent une tournure aussi radicale. Des milliers de personnes ont été licenciées. Il y a peut-être 80 expatriés, mais il y a aussi des centaines de salariés locaux. Les gens sont à juste titre extrêmement contrariés et frustrés, car l'effet sur la vie des gens au niveau local est très profond. À l'heure actuelle, et c'est sans doute endémique aux Nations Unies, il y a aussi un manque de communication directe, ce qui rend certains processus inutilement opaques.
La réduction substantielle des aides américaines, une crise de liquidité au sein du système onusien et un besoin de réforme générale justifient ces coupes drastiques. Thomas Burns est à la tête de Market Impact, un cabinet de conseil humanitaire. Il suit la refonte en cours et tente de compiler l'ensemble des données dispersées.
Le système humanitaire mondial doit être réformé, ça ne fait aucun doute. Mais ce à quoi nous assistons est très brutal. Au sein des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, la plus grande agence humanitaire, a dû supprimer 25 à 30% de ses effectifs mondiaux. L'Organisation mondiale de la santé a, elle, dû réduire de 25% ses programmes d'urgence. Il n'y a pas de temps pour la négociation, car dans de nombreux cas, les activités ont été immédiatement gelées. C'est pourquoi l'impact est si dévastateur.
Les conséquences sont directes sur les emplois et les activités humanitaires, mais elles touchent également l'ensemble des sous-traitants locaux ainsi que l'économie des localités dans lesquelles ces travailleurs étaient basés. Jacques Moukena, spécialiste gouvernance et économie à l'Institut congolais et Bouteli.
Leur départ va forcément avoir un impact. Il n'y aura plus de demandes en tout cas sur les logements qui sont beaucoup plus élevés, il n'y aura peut-être plus de demandes sur des produits qu'ils ont introduits. La liste est très longue en fait. Je peux prendre juste l'exemple des Nations Unies où généralement en 4x4. Et donc, quand ils arrivent dans un endroit comme Calibi, où il n'y avait pas forcément de garage ou des boutiques de pièces détachées pour les 4x4, il n'y aura plus une forte demande comme avant. C'est un peu ça. Y compris tout ce qui est service de sécurité, parce qu'ils veulent généralement habiter dans des endroits beaucoup plus sécurisés. Il n'y aura peut-être plus une forte demande de tous ces services-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer localement.
Selon les modélisations internes révélées par The Economist, le système onusien pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois de septembre.
Les conséquences économiques de la réforme des Nations Unies. Dossier signé Charlotte Cosset alors qu'il est 00h53 à Paris. Et on accueille Kezloum. Bonsoir Kezloum.
Bonsoir Zéphirin.
Aujourd'hui, vous nous présentez l'un des titres de la playlist afro de RFI à écouter bien sûr, aussi bien sur nos ondes que sur toutes les plateformes d'écoute.
Oui, et c'est d'ailleurs un grand, grand plaisir de vous présenter l'un des titres afro qui va vous accompagner cet été, j'en suis sûr, et peut-être même au-delà. Mais avant ça, reconnaîtrez-vous le style de cet héritier talentueux?
Eh bien, Kay, je crois que j'ai une piste. Il y a du Kuti dans l'air.
Bravo, bravo Zéphirin. Et celui qui nous demande de libérer notre pensée et notre âme dans cette chanson Free Your Mind n'est autre que Madé Kuti. Cette chanson, elle est sortie le 15 octobre 2020. Alors, le multi-instrumentiste, auteur, interprète est en effet le fils de Femi et le petit-fils de Fela. Fela Kuti, le roi, l'inventeur d'un style, l'afrobeat. Zéphirin, on vient de s'écouter un petit extrait en avant-goût de notre titre du soir, I Won't Run Away, qui signifie « Je ne vais pas m'enfuir ». Il est à paraître dans son tout premier album solo, Chapter 1, Where Does Happiness Come From, d'où vient le bonheur en français, et qui sort le 25 juillet.
Eh bien, je sais que c'est grâce à cette rythmique un peu particulière, identifiable parmi mille autres, que j'ai trouvé la piste de Kuti. Quand on évoque en tout cas la famille Kuti, on pense évidemment à la légende Fela Kuti et à ses deux fils, Femi et Shen. Alors, comment trouver son identité pour Madé dans cette lignée familiale talentueuse?
Alors, Madé, il puise l'essence de son style afrobeat dans le jazz. Et il va venir comme ça agrémenter son afrobeat de soul, de jazz, de musique classique et de funk. Cette identité musicale-là, il va la défendre à travers des thèmes peut-être moins politiques, mais plus personnels, où il nous parle plus de ses émotions, là où son père et son grand-père, eux, s'insurgent contre la corruption et les inégalités sociales.
Oui, une manière pour lui de se démarquer.
Oui, se démarquer, oui, mais pas à tout prix, tout de même. C'est là qu'intervient la subtilité de l'artiste, parce que tout en continuant de dénoncer ce monde percé par la violence, les inégalités et la déconnexion culturelle, dans I Won't Run Away, il porte ce message, un message de persévérance, et il est dans une recherche, cette recherche de cette meilleure version de soi-même, cette idée de ne pas fuir et de lutter contre ses propres défauts.
Et c'est vraisemblablement ce qui vous a touché dans ce morceau.
Ah oui, Keys, oui. Tout à fait, Zéphirin. C'est simple, ce morceau, je l'ai écouté au moins 20 fois aujourd'hui et les jours qui ont précédé. Parce qu'en plus de ces paroles qui mènent vers une introspection, il y a toute cette orchestration d'une efficacité redoutable et cette mélodie formidablement entêtante. Cette chanson, elle nous offre vraiment une impression à la fois de profondeur et d'élévation. C'est sa rythmique, son énergie, ses cuivres. Bref, Zéphirin, c'est de la très grande musique.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à écouter ensemble ce son de Madé Kuti, I Won't Run Away, à retrouver bien sûr sur la playlist Afro de RFI et sur les plateformes d'écoute musicale que vous connaissez, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et bien entendu sur le site RFI Musique.
Many temptations in my way, but I will go my own way. I will go my own way. I won't run away. I won't run away.
Voilà, I Won't Run Away de Madé Kuti, petit-fils du légendaire Fela Kuti, grande figure de l'afrobeat. Excellent choix pour refermer donc cette édition d'Afrique Soir réalisée aujourd'hui par Jonathan Brédy, rédacteur en chef Alexis Guilleux, assisté de Simon Bubaudin, que je remercie bien évidemment, et je vous remercie également de l'avoir suivi. Dans deux minutes maintenant, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Ozempic, quelle efficacité de ce médicament dans le traitement de l'obésité?
Mercredi.
Journée internationale de lutte contre le vitiligo.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.